chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Espère, comme l'a vu Maurice Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Chronique en débat. Chronique en débat, c'est l'émission au cours de laquelle des spécialistes, des personnes ressources locales nous aident à pénétrer la réflexion du chroniqueur Maudy Johnson. Cette semaine encore, Maudy Johnson nous livre de la matière réflexive. Avec nos deux invités en studio, nous allons décrypter tout au long de cette émission la chronique de Maudy Johnson. Nous allons essayer de décoder le message que véhicule Maudy Johnson dans sa chronique. Mais avant, place à la chronique avec Gloria Adjivesole qui prête sa voix à Maudy Johnson pour nous livrer la réflexion du jour.
J'ai entre 50 et 60 ans et demain je passe mon bac. Je n'y peux rien. Vous pensez que je suis trop vieux et que les trois jours suivants, je vais me rendre ridicule à réviser mon cours sur la CEDEAO et les effets de la mondialisation? En réalité, c'est mon enfant qui va à l'examen, mais dans cette préparation et cette participation, ma femme et moi nous sommes plus investis que lui. Eh mon Dieu, rien ne semble l'intéresser. Aucun cours de philosophie et d'histoire ne semble trouver grâce à ses yeux, lui qui est en série littéraire. Pire, il a décrété ses bêtes noires, à savoir les maths et les sciences de la vie et de la terre. Au comble du désespoir, j'ai dû lui demander de l'amener voir le directeur de l'office du bac, que je connais quelque peu et qui pourrait nous donner une dispense pour ces deux matières qui le dérangent. Pendant 2 jours, je me demande s'il n'a pas cru que cela était possible avant de me lancer plus tard un laisse tomber. Comme on approche de la Coupe du Monde, je peux vous dire que j'ai vraiment mouillé le maillot pour préparer cet examen que j'ai passé depuis les années 80. Quand je veux donner mon exemple à ce fils, toujours et partout indifférent, il s'arrête, s'assied, me regarde avec un air mi-renfroyé, mi-excédé, m'écoute et ne m'entend pas. De mon temps, quand on allait à l'école et notamment à l'examen, on n'avait pas la ribambelle de répétiteurs plus chers et plus inutiles, utiles les uns que les autres. On faisait des groupes de travail et on étudiait personnellement à se fondre le crâne. Enfin, on arrivait à un moment où nous pensions être vides, sans aucun savoir, on reprenait les cahiers et en faisant cette énième revue, on se rendait compte qu'on connaissait déjà ceci et cela. On se rassurait, mais bientôt l'angoisse revenait. On supputait, faisant des comptes d'épicier pour savoir où on aura une bonne moyenne et où faudra-t-il compter. Bref, c'était l'angoisse avec tout l'être tendu vers un seul but, l'examen. Quand je sortis de cette longue tirade, plongé dans un passé qui m'avait secoué, je retrouvais mon fils bien calé dans le fauteuil, peu convaincu par ce passé et ses bienfaits, dont on lui rabat de temps en temps les oreilles et me lança. « J'aurai ton bac, mes chers toutes et tous. Rien et vraiment rien ne prouve que cet enfant pourrait réussir. Moi, je pense qu'il faut ressentir un intérêt avant de réussir. Mais alors, qu'est-ce qui intéresse ce gamin prompt à résoudre les problèmes de mon téléphone et mon ordinateur portable, habile dans tout ce qui touche les médias, les GSM, toujours en train de manipuler le portable, que j'ai dû lui donner? Veut-il devenir réparateur de portable et peut-être d'ordinateur? Je lui ai demandé et il n'a pas répondu. Je voudrais décrire cet enfant apathique, semblant toujours blasé, au fait de toutes les actualités sur les sujets inutiles de mariage de stars, de nouvelles chansons de X ou Y, de nouvelles sorties de téléphones et de jeux vidéo, et qui semble parti pour vivre très longtemps à mes crochets au moment où la vie semble de plus en plus difficile. Qu'en ferai-je dans quelques jours après avoir dépensé, sans compter pour sa scolarité, dans les meilleures écoles, avoir payé des répétiteurs, dans toutes les matières, je me demande si je ne serais pas allé composer à sa place, si c'est possible. Dans ma maison, l'angoisse n'est pas dans le camp où l'on pense. Qu'en ferais-je lorsque, avec toute son indifférence, il va au bac et échoue? D'aucuns disent que c'est leur génération et qu'ils sont ainsi, différents de nous, mais avec une certaine conscience. De toute façon, il faut les aimer et savoir que chaque génération se forme, se forge au fur et à mesure et que peut-être nous aussi avions matérisé nos parents. Alors, qu'importe qu'ils aient le bac ou pas, nous serons toujours là pour nos plus grands trésors, indulgents ou sévères. Notre rôle, quoi qu'il en coûte, quel que soit le résultat immédiat, c'est de les accompagner vers et dans le monde pour entreprendre et réussir. Il y aura des batailles perdues, l'important c'est de gagner la guerre. Quand même que c'est difficile, le bac par procuration.
Que c'est difficile, le bac par procuration. Maudie Johnson se met dans la peau des parents qui gèrent l'après-bac avec leur progéniture. Laurent Ladouce, notre consultant de l'autre côté de Paris, qui était tout récemment en Autriche pour participer à un séminaire. De retour à Paris, nous allons retrouver Laurent Ladouce par la magie des ondes pour qu'il nous livre sa compréhension, sa lecture de la chronique du jour signée comme l'envie Maudie Johnson. Laurent Ladouce, bonjour, bienvenue dans cette émission Chronique en débat. J'espère que vous avez fait un excellent séminaire de l'autre côté de l'Autriche. J'espère également que vous avez fait un très bon retour à Paris après ce séminaire. Dites-nous votre compréhension, votre lecture de la chronique du jour de Maudie comme l'envie Johnson.
Bonjour chers auditeurs, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi. Alors, que fait un parent pour aider son enfant à réussir dans la vie, mais surtout à réussir sa vie? Dans son éditorial, Maudie Johnson dépeint un papa animé de bonnes intentions, soucieux du bien de son fils. Il s'investit beaucoup dans le bac de ce dernier. Mais l'effet est contraire. Au lieu de ressentir une aide stimulante et encourageante, le fils ressent une gêne croissante et donne presque un avertissement à son père. « J'aurai ton bac !» Cela signifie aussi que le fils se fermera ensuite à son papa. « Puisque la seule chose qui t'intéresse en moi est ton bac, tu l'auras, tu te feras ce cadeau qui fait tant plaisir à ton ego. Mais moi, tu risques de m'avoir de moins en moins parce que ma vie n'est pas la tienne. Un père n'est pas un inspecteur du bac, c'est un homme aimant. » Dans l'éditorial de Maudie Johnson, le fils ne se sent pas aimé par son père. Il aurait préféré que le père exprime autrement son amour. Mais alors, comment? Le poète Khalil Gibran avait donné un bon conseil aux parents. « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. » Voilà. C'était le poème de Khalil Gibran. Alors, quel conseil donner aux parents pour bien accompagner leurs enfants? De nombreux parents jouent un rôle décisif dans la victoire de leurs enfants. Ils les aident à aller très loin. On ne peut pas dire qu'il y a vraiment une recette particulière, mais on peut dire que toutes les recettes sont bonnes si elles proviennent du cœur des parents et non pas d'une sorte de hantise maladroite qui va indisposer l'enfant plus qu'autre chose. Voilà mes quelques commentaire sur cette éditoriale. Je vous souhaite une très bonne journée de mardi. À bientôt.
À bientôt, Laurent Ladouce. Merci pour votre introduction dans ce débat. Retour dans ce studio. Kanyi Silver Adjaouto, bonjour.
Bonjour, Romuald.
Kanyi Silver Adjaouto, je rappelle que vous êtes enseignant d'anglais dans les lycées et collèges et vous êtes correcteur du baccalauréat.
Exact.
Je voudrais également préciser que vous revenez fraîchement de la correction du baccalauréat en tant qu'enseignant dans la discipline d'anglais. Vous avez évalué les copies des candidats au baccalauréat, session unique de juin 2022. C'est bien cela?
Très bien, c'est ça.
Dites-nous, est-ce que les enfants ont excellé en anglais au cours donc de ce baccalauréat pour lequel vous avez participé aux travaux de correction?
Une fois encore, merci pour m'avoir invité. J'étais réellement à la correction du baccalauréat et au centre du CG1 à Boumé-Calavi. Par rapport aux résultats, globalement, les résultats étaient passables parce que dans notre atelier, nous avons eu environ 50%. Ça tournait autour de 49,83, je pense. Et si on prend série par série, c'est la série G2 qui vient en tête avec plus de 90%. Et la série D vient en dernière position avec un peu moins de 30%.
Alors, quand on se réfère à vos explications, on ne devrait donc pas se surprendre du pourcentage national de la série G2 à ce baccalauréat?
Pas du tout, pas du tout. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. D'abord, ils n'étaient pas nombreux. Ils sont environ... Ils n'atteignent même pas 1000, je ne pense pas. Et ils ont travaillé en G2, c'était très bien. G2, c'était très bien.
Bonjour à vous, Quentin Sagbo.
Bonjour, Mian.
Quentin Sagbo, je rappelle que vous êtes psychologue de formation et de profession.
Oui, c'est bien ça.
Vous êtes au cabinet Meilleure Vie.
Oui.
Et vous occupez le poste de directeur de la prospective
et des programmes.
Et des programmes au cabinet Meilleure Vie. Merci d'être présent dans ce studio pour nous aider à décrypter la chronique de Maudy Johnson comme tous les mardis. Ma première question va s'adresser à Kanyi Silver Adjaunto. Avant d'être enseignant en anglais, vous avez été bachelier, vous avez été candidat au baccalauréat. Dites-nous comment les parents vous ont accompagné tout au long de ce processus de préparation de votre baccalauréat.
Merci. Et j'ai été candidat, j'ai été au baccalauréat, les parents m'ont accompagné. Mais il faut reconnaître que l'accompagnement des parents, c'était un accompagnement, je dirais, qui était totalement différent de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que quand moi j'allais au bac, nous avons déjà un certain âge donné. Je dirais pas que c'était totalement la maturité, mais c'était juste avec deux mots. Vous comprenez déjà ce que le parent veut dire. Tu échoues. Tu sais que c'est l'apprentissage qui t'attend. Et puis, nous, on s'accrochait, on se disait, bien, il faudrait qu'on se donne toutes les chances pour avoir ce baccalauréat. C'était pour nous un défi en son temps. Et l'accompagnement des parents, il n'est pas aussi protectionniste comme on le constate aujourd'hui. On vous dit juste, en peu de mots, vous devez comprendre. Et vous devez apprendre.
On vous parle entre les lignes.
C'est ça, on vous parlait entre les lignes. Et nous-mêmes, on avait un certain engouement parce qu'on avait des modèles devant nous qu'on voudrait imiter. On avait des personnes à qui on voulait ressembler et on se battait. C'est vrai, les parents étaient là, ils accompagnaient avec le peu de moyens qu'ils avaient en son temps.
Avant de m'adresser à Quentin Sagbo, je voudrais rappeler qu'il était présent à ce baccalauréat, session unique de juin 2022, 2832 candidats dans la série G2 et 1755 candidats ont réussi à tirer leur épingle du jeu, soit un pourcentage de 61,97%. Alors, Quentin Sagbo, vous avez écouté Kanyi Silver Adjaunto décrire le contexte dans lequel il avait passé son baccalauréat. Vous échouez, eh bien, c'est l'apprentissage qui vous attend. C'était le mot d'ordre des parents. Avez-vous vécu la même chose?
Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui mettent la main pour que cette émission ait lieu pour le bien de nos populations. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose, sauf que quelque part, on se rejoint. Dans mon cas, j'étais d'un père lettré, donc enseignant. Et ce qui fait que je n'avais pas bénéficié d'une protection élevée. D'abord, et j'avais un modèle. Mon modèle n'était pas quelqu'un de grand, c'était juste un camarade qui était en avant sur moi. Mais il faut dire que j'avais une forte ambition d'aller plus loin. Ça, je ne sais pas comment mes parents me l'ont transmis, mais je l'ai eu très tôt, où le travail était au cœur de toutes mes préoccupations. On m'appelait même Agbanon. Agbanon parce que j'étais toujours avec un livre, toujours avec quelque chose dans mon sac. Il y a toujours même le dictionnaire. Ce qui fait que j'étonnais tout le monde. Donc, il y avait un grand dévouement, un grand attachement au papier. Ce qui fait que, déjà en première, sans qu'on ne me dise « tente le bac », j'étais quand même motivé à aller au bac. Et j'ai passé mon bac en première. Je n'ai jamais fait la terminale. Donc, je n'ai pas eu un parent qui m'avertissait pour dire « si tu échoues, c'est l'apprentissage ». De toutes les manières, quand moi j'allais au bac, même si j'échouais, j'ai toujours une chance devant moi parce que je passais en terminale et j'allais passer mon bac terminale. Donc, on me disait tout simplement « de toutes les manières, si tu réussis, ce serait un succès pour tout le monde ». Est-ce que vous voyez ? Mais qu'est-ce qui m'avait poussé à avoir ce désir d'aller au bac un an avant, plus tôt ? C'est parce que j'avais perdu une année en classe de CEP. En fait, j'ai échoué à ma première candidature au CEP. Et j'ai voulu rattraper cela dans mon cursus. Ce qui a fait que je me suis donné à fond pour pouvoir rattraper cela quand j'étais en première, si vous voyez. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'avais eu la chance d'avoir des parents qui nous motivaient au travail, mais qui n'étaient pas aussi là, comme gendarmes, préoccupés de notre succès, qui devraient nous conseiller jour et nuit, parce que d'une manière ou d'une autre, nous avions une conscience. Je dirais qu'on avait développé une affection des papiers. Vous voyez, il y avait cette affection pour les papiers, pour l'apprentissage, pour apprendre, savoir. On était fiers d'être les meilleurs de la salle. Je ne sais pas, c'est comme une compétition en fait. Et c'est un jeu pour nous. Apprendre, c'était un jeu. Lire, c'est un jeu. Dire à l'autre, j'ai lu déjà 10 livres. C'est une histoire de concurrence en fait. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui.
Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, j'allais justement poser la question à Kain Silo et à Djamouto. Le contexte que vous avez semblé décrire tout à l'heure dans vos propos liminaires, est-ce que vous pensez que la situation a évolué entre-temps ? Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui du contexte dans lequel les enfants passent le baccalauréat ?
Je ne peux pas dire que je ne suis pas fier parce que passer le baccalauréat, c'est une bonne chose. Seulement que le problème que pose le chroniqueur ici met en exergue plusieurs facteurs. Le tout premier facteur, aujourd'hui, nous avons le facteur âge. Vous avez aujourd'hui des gens qui passent le bac à 16 ans, à 15 ans. Et je dirais, ils ne sont pas totalement conscients de ce qu'ils veulent affronter. Secondo, il y a un certain désintéressement aujourd'hui aux études. Entre-temps, comme l'a dit mon frère enfin tout à l'heure,
Quentin Sabou,
on avait une certaine compétition, on se disait, moi je vais faire. Aujourd'hui, nos candidats n'ont plus pratiquement de modèles. Pour eux, les modèles aujourd'hui, c'est les artistes. Parce que quand on voit les artistes à la télé, c'est eux qui sont les plus riches et on montre les plus lettrés là comme les plus pauvres. Donc, ils se disent en réalité, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a ça, manque de motivation, manque d'exemple, de modèle. Et l'autre chose, nous avons aujourd'hui des parents trop protectionnistes. Moi-même, je le suis. On se dit, mon enfant ne va pas souffrir. Et pour un seul enfant, on peut engager jusqu'à 5 encadreurs à la maison. Et l'enfant se demande, c'est comme si on lui vole en quelque sorte son enfance. On ne lui laisse plus du temps, le temps libre pour pouvoir réfléchir par lui-même. Et dans la chronique, vous allez suivre l'enfant qui va au bac, il dit à son papa, ton bac, je vais l'avoir. En réalité, il se dit, je le fais
à cause de papa.
Donc, nous avons aujourd'hui ce facteur-là qu'il ne faut pas négliger. Et l'autre chose aussi, le chroniqueur dit, l'enfant, il est aujourd'hui plus intéressé par l'éthique. Et aujourd'hui, quand vous allez dans nos établissements, c'est vrai que le portable est interdit, mais tous les enfants pratiquement le téléphone qu'ils cachent dans un sac. Et dès que le cours finit, c'est ça qu'ils prennent. Et ils sont plus accrochés aujourd'hui au TIC qu'à leur cahier, qu'à leur livre. Alors qu'entre-temps, comme l'a dit M. Quentin tout à l'heure, en son temps, on rivalisait d'ardeur pour lire les livres. Les mercredis soirs, on était dans les bibliothèques pour chercher tel livre. Aujourd'hui, l'apprenant va vous demander si vous avez le nouveau son de tel DJ là. Si vous avez ça de lui, envoyez ça par Bluetooth. Il n'a même pas honte de vous le dire en tant que professeur. Parce que son intérêt, c'est là. Parce qu'on montre l'artiste à la télé en train de jeter des billets dans son yacht, en train de faire la vie entouré de femmes. Et c'est ça aujourd'hui, c'est ça qui est le modèle aujourd'hui qu'on veut suivre. Et certains de nos gouvernants aussi, l'importance qu'il faut tailler à l'éducation ou bien à l'enseignement, on essaie de négliger ça. Et puis les enfants se demandent, alors à quoi bon s'échiner, avoir un baccalauréat si après, celui-là que j'ai vu travailler tout le temps ici, il a le bac et 5 ans après, il est encore à la maison en train de trimer, ou bien il a eu le bac et c'est maintenant il est en train de faire zip. Alors tous ces facteurs aujourd'hui entrent en jeu pour décourager l'apprenant. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous décourager. Et là, je voudrais pour une première fois féliciter le gouvernement qui avait pris une mesure pour interdire que les enfants qui n'ont pas 5 ans ne commencent pas le CI. Parce qu'il faudrait que les enfants soient conscients un peu conscients de ce qu'ils veulent aller faire comme études. Un enfant qui a le bac à 13 ans, 14 ans, mais quand il va sur le campus, il est absorbé. Moi, je me rappelle, j'ai eu le bac à 21 ans. Et tenez-vous tranquille, je faisais partie des plus jeunes de son temps. Et on voyait à nous un avenir derrière à Dieu. Parce qu'en son temps, quand vous étiez jeune, vous réussissez, on disait, ah, celui-ci-là, il a un avenir à Dieu, il a un avenir déjà défini, il a un futur déjà promis. Et puis tout le monde voulait, comme l'a dit Quentin, il y avait un devancier à qui on voulait ressembler. Aujourd'hui, ces devanciers, c'est aux hommes que vous voulez ressembler aujourd'hui. Ou bien c'est à l'enseignant qui traîne sa moto dans la rue, c'est à lui que vous voulez rendre. Donc le modèle, il n'y a plus de modèle. Donc c'est pourquoi l'enfant, il manifeste ce désintéressement, ce dédain à certaines matières encore. Et il a cru, quand son papa lui a dit, j'irai voir le directeur de l'office du bac pour que tu sois dispensé d'une certaine matière. Il y a cru. Donc je pense que nous ne devons pas nous décourager. La chose peut être corrigée. Il suffit de pouvoir redonner à l'enfant l'espoir, de pouvoir redonner à ceux-là qui s'attachent à la chose la valeur qui leur est due, de pouvoir redonner à l'enseignant la place qu'il occupait jadis.
Quentin Sagbo, vous avez écouté un Kanyi Sylvé Adjamoto qui a fait, je dirais, un diagnostic assez profond de la situation actuelle, du contexte dans lequel les enfants passent le bac au Bénin. Est-ce que vous pensez que tous les parents se préoccupent de la réussite au bac de leurs enfants, tant si certains avaient la possibilité de composer à la place de leurs enfants, eh bien, ils n'hésiteront pas?
Oui, je pense que ces remarques sont justes. Quand je serai en train d'évoluer, j'irai un peu plus loin aussi. Mais je pense que les parents en font de trop. Je ne peux pas savoir le pourquoi, mais je pense qu'il y a une tendance à former des enfants non autonomes aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple qui m'a, ces derniers jours, pendant que nous étions en train de passer les différents examens BPC et BAC, m'a intrigué. Je suis loin d'un collège de ce genre qui abrite en période d'examen, des centres en fait, de composition. Au BBC comme au bac, il y a eu un monde fou. On ne pouvait même pas passer. Toute la voie était remplie. Véhicules, des gens qui sont debout, des hommes et des femmes, des vieux. Qu'est-ce qui se passe?
Les parents voulaient assister leurs enfants.
Il y avait les parents qui étaient là. Et ces parents n'étaient pas venus composer. Ils avaient accompagné leurs enfants. Ils étaient là de matin jusqu'au soir.
Et certains même, ils passent la nuit.
Je vous dis, c'est extraordinaire.
D'autres, pendant que les enfants composent carrément d'hommes là, sieste là.
Oui, et deux parents, le papa, la maman, ou même la grande sœur, tout le monde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe?
Oui, mais Quentin Sagbo, c'est vous-même qui avez dit dans ce même studio que les parents devraient pouvoir s'unir, parler d'une seule voix, être un seul homme pour soutenir leurs enfants tout
oui,
au long de la
oui.
composition.
Je me rappelle que je l'avais bien dit et j'explique le contexte et comment est-ce que cela peut se faire.
Voilà.
Il ne faut pas en abuser. Moi, je vous dis une chose. Mon père et ma mère ne m'ont jamais accompagné le jour des examens. Je n'ai jamais bénéficié de ça. Je peux bénéficier d'un encadrement à la maison. On me réveille déjà à 6 heures. On me dit, est-ce que tu as ta carte d'identité? Est-ce que tu as telle pièce? Est-ce que tu as si? On vérifie tout ça avec moi. Je mange, on me dit, bonne chance.
Prépare à l'indépendance?
Je m'en vais seul. Et à l'heure de pause, je n'ai personne. Je compose jusque dans la soirée, je rentre. C'est quand tu rentres le soir, personne ne te demande même comment tu as fait. On dit, c'est quand tu finis qu'on pourra faire le point. Parce qu'on ne veut pas revenir sur les autres matières pour te stresser. Et c'est comme ça. Voilà par exemple de quoi je parle. Lorsque vous êtes élevé dans une famille déchirée et que votre enfant en souffre, nous savons que le divorce ou les conflits peuvent être des facteurs qui impactent négativement le psychologique, l'état émotionnel de l'enfant et qui pourraient avoir des conséquences négatives sur le rendement scolaire de l'enfant. Et sur ça, il n'y a pas de débat. C'est comme ça. Et donc, pour éviter cela, nous prêchons, nous demandons, nous conseillons, nous recommandons que les parents festèrent leur conflit en période d'examen pour accompagner. Mais pas pour jusqu'à créer une indépendance vis-à-vis de leurs enfants. C'est une aberration, je pense. Il m'est même arrivé que j'ai été à l'examen tout maladif. La seule chose que mon père a fait, il m'a fait déplacer sur sa moto, il m'a déposé, j'avais les comprimés, il m'a dit, à midi, tu prends ça, le soir, tu prends ça, et puis retourne à la maison. Ça nous permettait de nous autogérer, de prendre notre vie en main. Et le problème que Maudie Johnson pose devant un enfant qui a d'autres centres d'intérêt que le papa, C'est aussi un peu comme ça. Le papa est un peu trop protectionniste, va trop loin. Et vous savez le problème, c'est parce que nous avons dit, nous aujourd'hui, parents, nous disons, nous avons souffert. Nous trouvons que nous là, nous avions souffert. Et que ce que nous avons souffert, notre enfant ne va pas en souffrir.
Kenneth Silver Adjamoto l'a dit il y a un instant.
Et lorsque nous disons ça, qu'est-ce qui se passe? Un fait très clair qui se passe sous nos yeux, mais dont on est ignorant. Les temps durs créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps durs. Nous sommes actuellement à la phase des hommes forts qui créent des temps faciles. Qui est le temps actuellement qui est facile est en train de créer des enfants faciles. Qui vont plus tard créer des temps durs. Parce que quand vous formez un enfant qui aime le profit, le gain facile, qui ne trouve plus du plaisir à faire d'efforts, qui n'a pas un sens de vie bien orienté, une conscience assez nette en ce que c'est le travail qui libère l'homme et non la facilité, cet enfant va aussi va créer des conditions à la facilité. Et il va faire aussi des enfants dans cette condition facile. Ces enfants n'auront pas donc la notion de l'effort. Vous comprenez ce qui va se passer? Nous sommes en transition actuellement. Et c'est le problème que nous vivons. Donc je pense qu'il faut une rééducation des parents que nous sommes actuellement en ce qui concerne notre juste rôle. Et Laurent Ladouce disait tout à l'heure qu'il ne faut pas prêter aux enfants. Okay. Les parents ne doivent pas, dans le poème qu'il comptait, il faut pas que les parents prêtent à leurs enfants leurs idées. Parce que les enfants ont leurs propres idées. Moi, je dirais que c'est une erreur. C'est une erreur éducative que le parent ne puisse pas transmettre un certain nombre d'idées, de valeurs. Parce que les valeurs sont d'abord une idée. Et je pense que c'est ce qui se passe. Même quand vous prenez le développement d'un enfant, il y a un moment où l'enfant trouve ses parents comme le modèle à imiter, n'est-ce pas? On est d'accord. Et c'est au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il découvre le parent le plus parfait qu'il avait conçu, avait aussi des défauts. Et à cause des défauts, il peut s'en éloigner. Mais il faut que tout de suite à côté, on lui propose un autre modèle. Et ce modèle, sur quels critères on le propose? On le propose sur ses propres convictions, sur ses propres opinions. Je ne peux pas présenter Didier Arafat à mon enfant comme modèle, par exemple. Je ne peux pas présenter Vano comme modèle à mon enfant. Mais je peux présenter, par exemple, notre cher ami dont on avait parlé ici, M. Da Silva, d'accord? Je peux le présenter comme un modèle. Je peux présenter Jean Pliat comme modèle. Je peux présenter un des chroniqueurs de KPFM, là.
Jérôme Carlos
comme modèle. Voilà. Mais est-ce que mon enfant a la conscience de cette génération? Non, c'est moi le père, c'est moi la mère qui a connaissance de cela. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de modèles, mais nous les ignorons dans leur tombe, dans leur monde noir. Pas plus tard qu'hier, sur une émission à KPFM, je disais aux journalistes, vous devez créer dans votre ligne, je sais quoi.
Dans la grille des programmes.
Oui, des émissions pour proposer aujourd'hui à la génération actuelle des modèles d'hier et d'aujourd'hui. Nous les avons sous nos yeux, mais nous les oublions. Les merci et autres ne sont pas de modèles, parce qu'en réalité, derrière ce que les médias nous proposent, il y a de pire. Ce que le média propose n'est pas toujours la réalité. Or, nous sommes en train d'habituer, puisque nous sommes à l'aide de numérique, le contact facile, le problème c'est bien là, le contact facile avec le miroir que présentent les médias devient le modèle psychologique des jeunes. Or, ce que Messi vit comme problème, difficulté dans sa vie cachée, ce que Vano, je ne sais quoi, tout le reste vit in off, n'est pas présenté. Personne ne voudrait mettre sur les toits ses tares. Mais je vais, même si j'ai des tares, je vais singer pour montrer que je vais bien. Et c'est ce « je vais bien », ce semblant de « je vais bien » qui est inoculé comme un virus dans le cerveau de nos jeunes. Et il y a Carl Gustav Jung, que j'aime beaucoup, qui dit ceci, qui dit « il n'y a pas, c'est-à-dire les maladies, les virus un peu comme Covid-19 et autres, ne sont pas les situations, en fait, les phénomènes les plus dangereux pour l'homme. » Il dit « le plus grand danger pour l'homme, c'est l'homme. »
Ce qui voudra dire ?
Ce qui voudra dire que dans la masse, il y a des virus psychiques qui sont inoculés dans nos cerveaux. Et ces virus psychiques émanent des agissements, des mensonges, des semblants que nous, vous et moi, les hommes, proposent à la société, à la génération qui vient. Et c'est ça qui constitue le danger. Ce n'est pas les virus qui le font. Nous n'avons pas une guerre à livrer aux problèmes biologiques, enfin, aux microbes, aux pathologies. Non, mais nous avons une guerre à livrer à l'homme, à ce que l'homme doit faire, à ce que l'homme propose pour la société. Ce problème que nous vivons, je pense que ce papa a un véritable problème parce qu'à un moment donné, il a failli à sa mission. Sa mission à laquelle il a failli, c'est qu'il n'a pas su présenter très tôt à son jeune garçon ou à son enfant, à un moment donné, à partir du moment où il a cessé d'être le modèle pour son enfant, un autre modèle. Je vais vous dire, moi, deux modèles qui m'ont marqué quand j'étais encore élève. Il y avait un monsieur, un gars, qui était en terminale A1. J'ai assisté une fois à sa manière de commenter un test. J'étais encore en seconde quand lui, il était en première. J'étais terrifié. J'étais tombé tout de suite intéressé par lui. Et ce qui m'a motivé à renforcer la lecture, parce qu'il pouvait dévorer dans une semaine deux livres. Et son style, tout ça, ça m'a beaucoup intéressé. Ce qui m'a poussé à rentrer dans le livre. Et plus tard, en rentrant dans le livre, je découvre Jean Pliat. La profondeur de ses idées et tout. Je dis, mais non, tiens, ça, c'est encore très intéressant. Et on ira plus loin avec d'autres modèles. Jean Pliat, que je ne connaissais pas physiquement, mais que je pouvais déjà citer, présentant son histoire et tout, alors que j'étais encore gamin. Plus tard, quand je suis venu à l'université et puis je l'ai rencontré, je dis, mais vous là, vous m'avez forgé. Il demeure encore dans ma vie comme élément fondamental. Et donc, je pense que le grand virus de notre temps, le grand danger de notre temps, c'est l'homme.
Est-ce que vous êtes de cet avis, Kain Selou Adianto, partagez-vous cet avis? Est-ce que le contexte que vous décrivez, vous deux, dans ce studio, vous déplorez le trop protectionnisme du père qui assiste ou accompagne son enfant pour le baccalauréat?
Merci. Je ne dirais pas que les parents ont démissionné. Et le psychologue a parlé, il a dit le plus grand danger de l'homme, c'est l'homme. Et moi, je dirais, c'est vrai, l'homme n'est pas le danger, mais l'homme doit se corriger pour que l'homme puisse être libre. Le parent, selon lui, il est en train de bien faire. Comme je l'ai dit, mon enfant ne va pas subir les mêmes difficultés que moi. C'est dans cette perspective que le parent, il a tout donné. Et il a donné à son enfant tous les enseignants possibles pour que cet enfant réussisse. Sans lui montrer les motivations, les intérêts qu'il a à s'accrocher lui-même à l'éducation. Donc je pense que le parent, il devait à un moment donné s'interroger. Est-ce que je suis en train de bien faire? Est-ce que je suis en train de pouvoir conduire cet enfant vers? Parce que personne ne fait rien sans motivation. La motivation, c'est ça qui fait que nous essayons de pouvoir nous lancer, nous essayons de pouvoir entreprendre. Si dès le début, on avait donné le goût à l'enfant d'étudier par lui-même, on lui avait donné le goût de pouvoir lui-même aller à la recherche, on ne l'a pas habitué à obtenir tout ce qu'il veut, parce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui malheureusement. Dès que l'enfant dit « je veux ci », on court, on le lui donne. Dès que l'enfant dit « j'ai besoin de ci », on court. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de donner à l'enfant.
Les enfants veulent même des répétiteurs en SVT.
En SVT, non, il le faut. Dans toutes les matières, normalement, il le faut. Mais il faudrait que ce soit parti d'un âge.
Même en histoire géo?
Même en histoire géo. Parce que vous savez quoi? Moi, je suis enseignant et je ne voudrais pas qu'on mette une matière de côté et l'autre. En histoire géo, par exemple, vous pouvez appeler le professeur d'histoire géo lorsque votre enfant est peut-être en première ou en terminale pour qu'on lui enseigne les techniques rédactionnelles, les techniques, comment faire, comment aborder un commentaire.
Vous avez-vous eu la chance d'avoir
Je n'ai jamais eu de répétiteur dans ma vie.
Parce que votre père vous dira que ce sont des leçons à apprendre.
Je n'ai jamais eu de répétiteur. Et aujourd'hui, avec le contexte aujourd'hui, c'est vrai, vous pouvez bien apprendre les leçons, mais la manière de rendre vous sera un peu difficile. Donc, je continue en disant, le parent, il lui faut une certaine rééducation lui-même d'abord afin de pouvoir bien orienter son enfant s'il veut demain en bénéficier. Parce que souvent, c'est des enfants qui se retournent contre nous. Ils disent « Ah, pourquoi tel enfant a fait ci ? Parce qu'en son temps, tu m'as fait ci, en son temps, tu m'as fait ça, tu ne m'as pas fait ça, tu ne m'as pas fait ça. » Donc, il faudrait que nous puissions avoir une main de fer dans un gant de velours pour pouvoir mieux orienter ces enfants qui ne sont que le futur de demain. Parce que ces enfants mieux formés, nous aurons une nation future très, très rayonnante. Mais une fois que nous échouons à notre mission, c'est que nous sommes en train de mettre en mal ce pays. Et moi, j'ose croire et j'ai encore espoir que la chose peut encore changer. Il suffit de redéfinir pour ces enfants-là le modèle, de mettre en place une politique qui encourage, l'excellence. Aujourd'hui, on n'encourage pas l'excellence et on pense que ce sont les médias qui réussissent. Quand on voit un jeune homme qui a le BPC, qui est allé avec un ordinateur, il a acheté déjà une Range Rover qui roule dans le quartier, on dit « Ah papa, je veux ressembler à celui-là. » Il roule Range Rover. Mais comment est-ce qu'il a fait pour acheter Range Rover? Il faut arriver à ça. Aujourd'hui, quand on voit un maire à qui on offre une voiture de 50 millions et l'enseignant qui roule sa BBCT, l'enfant veut tout de suite choisir la fonction politique. Alors il veut aussi aller à la politique, acheter une voiture de 50 millions. Quel modèle donnons-nous à nos enfants? Nous devons promouvoir l'excellence et encore l'excellence. C'est à ce seul prix que nous redonnerons espoir à nos enfants.
Quentin Sagbo, dans la République, quand vous passez un examen et que la proclamation des résultats intervient au lendemain de cet examen, quand vous circulez dans les ruelles de Cotonou, une seule question vous est adressée. Est-ce que ça a marché? Ça a marché. Et c'est cette portion de phrase en thème de questionnement qui vous est adressé et qui est adressé aux candidats et à leurs parents tout au long des vacances. Est-ce que ça a marché? Quand ça a marché, on répond fièrement oui, ça a marché, avec beaucoup de sourires. Mais quand ça n'a pas marché, on baisse la tête. Comment on gère l'après-bac entre ça a marché, ça n'a pas marché?
Merci. Avant de répondre à votre question, si vous me permettez,
allez-y.
Je voudrais revenir sur un certain nombre de choses.
Allez-y, Quentin Sagbo.
Je pense qu'il y a un problème. Lorsque nous voulons que notre enfant réussisse, nous devons commencer, par exemple, pas seulement aux examens, mais presque dans tout. Parce que la vie, c'est un vaste chemin, c'est un vaste champ de combat. Mais malheureusement, nous avons réduit la vie à la réussite scolaire. Comme si c'est uniquement là qu'il faut réussir la vie. Et si on réussissait la vie à ce niveau, c'est que ça dit il n'y a plus rien quoi. Alors que la vie, l'école n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Et c'est l'erreur de ce parent. Il aurait pu élargir la vision de cet enfant sur toute la vie. Lui montrer que dans la vie, il y a une manière d'être. Il y a des objectifs qu'il faut qu'on ait. S'il avait pu faire cela, l'enfant trouverait dans son examen un objectif de lui-même, sans que le papa s'en préoccupe énormément. Et quand vous parliez, une image m'est arrivée. Je me rappelle, j'avais encore 2 ans, 3 ans, 5 ans par là. Mon papa qui fut enseignant, mon père fut enseignant avant de passer au niveau supérieur. Dans la nuit, pendant qu'il devrait faire ses fiches, il me mettait à côté de lui. Même si je ne faisais rien, le simple fait que je regardais comment il formait les lettres. Mon papa a une très belle écriture. Quand il vous écrit d'abord, il a un don, il est aussi dessinateur, donc il dessine. Quand il vous écrit des lettres cursives, vous allez manger. Ça dit, c'est propre. Et s'il doit aller se coucher à 3 heures, je dois aller me coucher avec lui. Je peux somnoler. On est là. Je me suis rappelé de ça tout à l'heure. Pour dire certainement que c'est à travers cette manière régulière de m'habituer au papier, à l'étude et tout, que j'ai pris le goût des études. Pour dire que cela a été élargi surtout aujourd'hui. Alors lorsque ça ne marche pas, les gens font la tête, une mine négative, un peu comme dit vraiment, avec tout ce que les gens désespèrent. Comme si la vie s'arrête là, la vie ne s'arrête pas là. On peut ne pas réussir au bac et réussir dans d'autres choses, n'est-ce pas? Mais toujours est-il qu'on a investi. Moi, je pense qu'il faut d'abord, lorsque ça ne marche pas, lorsque à un examen on échoue, comme ce que j'ai fait quand j'ai échoué au CEP, d'abord on s'assoit et on réévalue. Ça fait mal, oui. On peut pleurer. On peut faire ce qu'on peut faire, en tout cas pour surmonter la douleur, pour faire sortir la douleur, d'accord? C'est très important, il faut faire sortir la douleur, chacun à sa manière. La meilleure manière, c'est de pleurer ou de se confier à quelqu'un, de dire ses amertumes et tout. Mais après cela, il faut s'asseoir et réévaluer. Le candidat doit réévaluer son travail. Quelle matière pourrait être la cause de mon échec? Quelle pourrait être là où je n'ai pas pu donner le meilleur de moi et cela a joué sur ma note? Et à partir de ce moment-là, je commence par comprendre que, eh bien, ce qui a été à la base de mon échec pourrait être. Donc, je ne commence pas à avoir des hypothèses explicatives de mon échec. Et très vite, je vais chercher le relevé. Je me rappelle que mon papa m'habitue à ce truc-là. Même quand tu es admis, tu vas chercher le relevé, tu t'assois et il te dit, toi-même là, regarde chaque matière, regarde les notes que tu as reçues. Et voici, effectivement, tu, avec ce que tu as fait, tu méritais, si tu méritais ces notes-là. Donc, lorsque vous faites cela, eh bien, vous situez dans la situation. Et vous devez vous dire, ce n'est pas la fin. Désormais, je vais reprendre. Mais en reprenant, je sais où appuyer fort. Parce que cette réévaluation m'a permis de trouver mes failles, mes faiblesses. Et c'est là où je vais me renforcer. Et s'il fallait aider un enfant à apprendre des répétiteurs, je pense que c'est dans ces matières-là. Mais une fois de plus, je dis, ce n'est pas que je suis contre le fait que les parents prennent des répétiteurs pour leurs enfants. Je n'en ai pas bénéficié, moi. Mais je voudrais dire tout simplement qu'on peut réveiller chez un enfant même s'il y a répétiteur ou pas, on peut réveiller chez l'enfant des techniques, des manières d'aller à la recherche du savoir, de construire soi-même son savoir. Et c'est lorsque votre enfant n'arrive pas, malgré le fait que vous lui avez donné les possibilités, les manières, l'attitude pour y arriver, que vous allez maintenant venir en aide. C'est comme ça. On ne donne pas de répétiteur tout azimut parce qu'on a de l'argent, parce qu'on ne veut pas que notre enfant souffre. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut que l'enfant présente des difficultés d'apprentissage notoires malgré vos efforts. Parce que le répétiteur vient corriger quelque chose. Il n'y a pas encore problème, mais vous courez, vous donnez répétiteur. Finalement, l'enfant va s'ennuyer parce qu'il ne va pas trouver l'important du répétiteur. Ou bien, à partir de là, il va commencer maintenant par définir d'autres machinations avec le répétiteur.
Des répétiteurs aussi qui se transforment parfois en bourreaux pour les jeunes candidates.
Tout simplement.
Il faut le dire, quand Sylvain Adjaouto, il a dit le chroniqueur, les candidats qui ont échoué au baccalauréat ont perdu la bataille, mais pas la guerre.
Oui, les candidats qui ont échoué au baccalauréat ont perdu la bataille, mais pas la guerre. Et c'est une réalité dans la vie. Il faut souvent reculer pour mieux sauter. Et ceux-là qui n'ont pas pu avoir leur baccalauréat, moi, je leur souhaite beaucoup de courage. Ils n'ont qu'à s'asseoir, réévaluer les matières dans lesquelles ils n'ont pas pu travailler et se donner de nouveaux défis pour l'année prochaine. Ce n'est pas la peine de baisser les bras. Certains sont en train de reprendre pour la deuxième fois, bien pour la troisième fois. Il faut toujours essayer, essayer et encore essayer parce que au bout du tunnel, il y a la lumière.
Nous sommes presque au terme de cette émission, mais avant de nous séparer, dites-nous, Kainsilou Adjaouto, comment est-ce que vous concevez l'accompagnement psychologique des parents par rapport à l'après-bac pour ceux des candidats ayant réussi ou ayant échoué à cet examen?
L'accompagnement psychologique des enfants, c'est une chose nécessaire, voire indispensable. Que l'enfant ait échoué ou pas, il faudrait accompagner ces enfants-là. Leur donner des conseils par rapport à celui qui réussit. Voilà, tu veux entrer dans une nouvelle vie. Tu deviendras étudiant. Voilà, tu auras rencontré si. À celui-là qui a échoué, les parents doivent l'encourager. Ce n'est pas la fin du monde. Et j'ai retenu dans le commentaire de Laurent Ladouce une parole que j'aime. Il vaut mieux réussir sa vie que de réussir dans la vie. Et Quentin a dit tout à l'heure, on peut ne pas réussir au baccalauréat, mais réussir sa vie. Et je pense que c'est à ça que les parents doivent travailler. Un enfant qui a échoué au bac, faut pas regarder tout ce que vous avez dépensé et commencer à l'insulter ou le blâmer. Mais au contraire, encouragez-le et donnez-lui les moyens pour qu'il puisse s'armer de courage et que l'année prochaine, qu'il vous ramène un baccalauréat en bonne et due forme. Peut-être s'il avait eu cette année, il aurait eu sans mention. Mais l'année prochaine, je suis sûr que ceux qui ont échoué cette année reviendront avec une mention, minimum mention assez bien, pour effacer les larmes de leurs parents et pour pouvoir quand même se redonner une autre chance pour se relancer dans la vie. C'est très important.
Quentin Sagbo, sur la question.
Je pense que lorsqu'il y a échec, tout le monde souffre, et parents et candidats. Mais ils doivent savoir quelque part que l'échec est une bonne nouvelle, autant que le succès. Il n'y a pas de vie réussie sans échec. D'ailleurs, moi, parfois, je le disais hier aux étudiants de la psychologie, il faut de l'échec dans la vie d'un homme pour que celui-là apprenne de nouvelles aptitudes, développe une certaine résilience, c'est-à-dire une certaine capacité intérieure. Donc, c'est une bonne nouvelle. À un moment donné, même s'il faut se lamenter un peu parce qu'on n'a pas pu atteindre son objectif, on est en retard par rapport à d'autres, il faut que les parents et enfants se disent, bon, chacun va évaluer à son niveau, où est-ce qu'il n'a pas fait son travail. Donc, la première chose que je conseille aux parents, c'est de se dire, l'argent que j'ai dépensé, apparemment c'est perdu, mais ce n'est pas perdu. Apparemment, ce n'est pas perdu. Donc, c'est dans la tête que tout se joue. La manière dont on évalue, on aperçoit, on interprète l'échec, c'est là que tout se joue. Si j'interprète l'échec comme la fin du monde, ce sera la fin du monde pour moi. Mais si je l'interprète comme, eh bien, c'est une bonne nouvelle qui veut dire on n'était pas prêt. D'accord? Où est-ce qu'on n'était pas prêt? Chacun évalue à son niveau, et parents et enfants. Puis après, dès qu'on découvre où est-ce que chacun n'a pas pu faire son travail, eh bien, on va se redéfinir maintenant une nouvelle manière d'aller désormais pour pouvoir réussir. Et c'est toujours comme ça que toutes les équipes qui ont réussi dans la vie ont avancé. Je voudrais dire, si vous me permettez pour terminer, l'échec est un élément, je répète encore, l'échec est un élément de développement personnel. Parents, acceptez l'échec, acceptez le non. Parce que si vos parents, vous pouvez dire non à votre enfant si vous demandez quelque chose, acceptez que la vie vous dise non vous-même face au oui que vous voulez obtenir. Le oui ne peut pas exister à tout moment. Donc, l'échec, il faut l'accepter, il faut sauter à nouveau. Merci.
Merci à vous, Quentin Sagbo. On va se séparer sur un extrait de la poésie de Khalil Gibran, rapporté dans son commentaire pour éteigner sa position. Eh bien, c'est Laurent Ladouze qui nous l'apprend. Le poète Khalil Gibran avait donné un bon conseil aux parents. Le poète dit, citation, « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. » Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez visiter, même pas dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. Car la vie ne va pas en arrière. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. Fin de citation. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Nos invités en studio n'ont pas le mérite d'avoir vidé ce sujet, mais ils ont tout le mérite de l'avoir ébauché. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous depuis 9 heures dans ce studio. Quentin Sagbo, psychologue de formation et de profession, directeur des programmes et de la prospection au cabinet Meilleure Vie. En face de lui, dans ce même studio, Kanye Silver Adjaunto, enseignant en anglais, correcteur au baccalauréat, session unique de juin 2022. Le programme se poursuit sur la web radio éducative du groupe Éducation. Vous retrouverez à l'animation de cette émission mardi prochain Gloria Adivesolé. Quant à moi, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable suite des programmes sur la web radio éducative du groupe Éducation. Partie technique, Simon Arossi. Présentation, Romuald Lobo. Coordination éditoriale, Urich Vital Arotondi. Merci à Laurent Ladouze de l'autre côté de Paris. Merci également à Maudi Comlanvi Johnson pour nous avoir livré la réflexion du jour. À toutes et à tous, on se retrouve dans 2 semaines. À très vite et bonne suite des programmes sur votre radio, la meilleure de l'éducation au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde.
La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Espère, comme l'a vu Maudie Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouze. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.